bénédiction pour moi aussi d'endosser le message que Michael a mentionné, là, comme introduit un peu mon sujet. Et puis, là, c'était question qu'on, si nous faisons du souci pour notre royaume, c'est que nous ne sommes pas dans le bon royaume. Ce n'est pas notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Hein? Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, ce que nous faisons, c'est pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Marie, nous en sommes bénis. Nous ne le faisons pas pour être bénis. Nous le faisons pour bénir les autres et pour louer notre Dieu. Alors, merci Seigneur de nous faire comprendre l'importance de tout ça. Et puis, chaque ce matin, on doit faire aussi le repas du Seigneur. Et ça donne très bien parce que Michael nous demandait est-ce qu'on le fait avant ou après ou quoi. Parce que, sans en parler, je termine mon message sur le repas du Seigneur. Alors, Michael va simplement faire la suite, là, après le ministère de prière. Alors, ne vous sauvez pas après la prédication, ni après le temps de prière. Nous allons terminer par le repas du Seigneur. C'est vraiment fraternel ici, et puis j'ai hâte de tous vous parler plus précieusement. Alors, OK, assez de blabla. Je vais vous parler de mes expériences en quelques minutes dans mon message. J'ai été placé dans mon message ce matin. Et puis, j'ai seulement une ou deux lectures à faire, dont ma première lecture sera dans le livre de Luc, le chapitre 24. Ils en ont lu pas mal le texte, Luc 24 et le verset 13. Excusez-moi. On va se lever ensemble pour la lecture de la parole. Je ne le demande pas tout le temps, mais je pense que cette fois-ci, ce sera approprié de se lever devant la majesté, alléluia, et de suivre la lecture ensemble, dans le chapitre 4. Et sans se placer dans le contexte, Jésus vient de ressusciter, ça fait à peine une journée, et puis déjà, deux disciples sont découragés, désemparés, parce que le royaume qu'ils pensaient d'établir avec Jésus, mais il n'a pas eu lieu, selon leur façon de voir. Et puis dans Luc, le chapitre 24, le verset 13, il est écrit ici, « Et voici ce même jour, le même jour de la résurrection. Oui. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, plus ou moins 8 kilomètres. Puis ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Ça vous est-tu déjà arrivé, ça? Hein? Ensuite, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Puis ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Quand je regarde ça, ce texte-là, parce que j'essaie toujours de voir en profondeur les répliques et ce que Jésus leur disait. On voit ici que Jésus s'approche d'eux, puis ne savent pas que c'est Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Et puis là, Jésus leur demande, de quoi vous parliez en chemin, là? Je pense que certains de nous aurions honte de dire de quoi nous parlions. Oh, nous parlions de sport, nous parlions là, de mon voyage et tout ça. Mais Jésus savait que la conversation se dirigeait vers leur déception. Et puis, dans le verset, dans le chapitre 24, dans le verset, maintenant, nous sommes rendus à 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, si j'en ai à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur demandait-il? Et encore, j'imagine, la scène de s'était mis dans un sens contemporain. Comment, tu n'as pas écouté TVA aujourd'hui? Tu sais pas ce qui s'est passé? C'est annoncé partout? Non, de quoi vous parlez? Pierre a pu dire, c'est quoi ce TVA? En tout cas, bon. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Et là, un verset triste, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions que nous ferions partie, que nous pourrions élever un royaume ici dans notre pays. Mais voilà, tout cela, le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés,
s'étant rendus de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, puis ils ont trouvé les mêmes choses, les choses comme les femmes leur avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Alors Jésus commence à parler de lui-même sans qu'eux sachent que c'est de lui-même qu'il parlait. Et puis ensuite, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Allez. Et ensuite, lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Alors Seigneur prend cette parole, qu'elle puisse être un baume sur les cœurs de plusieurs et une bénédiction pour ceux qui ont faim et soif de ta présence. Merci Seigneur que tu es là avec nous et que tu ne nous laisses jamais tomber. Amen. Merci, vous pouvez prendre vos places. C'est tout un contexte, hein? Alors, Jésus est ressuscité, ils ne le savaient pas. Jésus était là auprès d'eux, et ils ne le reconnurent pas. Et puis, ils ont même parlé de certaines femmes qui sont allées au tombeau. Et puis qui ont vu que le tombeau était vide. Puis là, bien, c'est une histoire aussi assez triste, ça, parce que là, si on lit dans ce chapitre de Jean, le chapitre 20, là, il est écrit que les femmes sont allées au tombeau, puis ont vu que le tombeau était vide. Alors, la femme voyait le sépulcre et pleurait parce qu'il était vide. Alors, elle voit un ange ou une forme apparaître à côté d'elle. Et puis l'ange lui demande, « Pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures? » Puis elle répondit, « Je ne sais pas où est Jésus. Il était ici, puis il est disparu. Je ne sais pas où ils ont mis ce Jésus. » Alors, les deux histoires se ressemblent. Hein? Elle n'a pas reconnu Jésus tant qu'il n'a pas appelé par son nom. Finalement, elle dit, « Marie! » Et là, elle l'a reconnu. Et puis, les deux disciples ont reconnu Jésus lorsqu'il a fait la fraction du pain. Ah, c'était lui! On aurait dû le savoir que c'était lui! Ah, voilà, c'est une bonne nouvelle! Alors, on voit que ses disciples étaient plutôt tristes en se promenant sur le chemin. Et puis là, je me pose toujours des questions. Moi, je lis le texte. J'aime savoir le fond des choses. J'aime placer le texte dans un contexte, je pourrais dire, plus contemporain, qui est possible pour moi de reconnaître. Alors, je me suis demandé certaines questions, comme vous peut-être, quand vous lisez certaines portions de la Bible. Comment ça se fait que les disciples n'ont pas reconnu Jésus? Ils sont des disciples, ils l'avaient vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, ils étaient au courant des femmes qui avaient été voir les disciples et dit qu'il n'est plus là, etc. Alors, ces gens-là, pour Jésus n'était pas un inconnu. Maintenant, plusieurs diront, mais c'est parce que Jésus avait un corps transformé, il ne ressemblait plus à ce qu'il était auparavant, alors personne ne pouvait le reconnaître, etc. Et je crois que cette réponse-là peut être valable, mais je ne crois pas que cela est la pleine vérité. Et puis, alors, mais pourquoi est-ce que leurs yeux ne le reconnurent pas? Et c'est spécifié dans la Bible, ils ne le reconnurent pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que des fois Jésus se tient près de nous et on ne ressent pas sa présence? Ou on n'entend pas sa voix? On ne sait pas qu'il est là? On a tous passé par des épreuves. Que Jésus était là, on ne savait pas. Que Jésus était là, mais on ne le reconnaissait pas. Et quand j'ai passé ces 13 jours à l'hôpital au mois d'octobre, je vais vous en parler plus tantôt, Jésus était là, mais Des fois, je ne pensais pas qu'il était. Et puis, j'ai eu honte après ça de savoir que, après tout ce temps-là, après mes tant d'années de ministère, que je n'ai pas reconnu Jésus comme j'aurais dû le reconnaître à ce moment-là. Je vous en parle plus tard. Mais c'est pour ça que je peux vous dire qu'une des raisons pour lesquelles on ne reconnaît pas Jésus dans les vies de tous les jours, c'est parce qu'on s'entretient trop sur des mauvaises nouvelles. Les disciples, eux, ils parlaient de ce malheureux, hein, ce Jésus, on pensait qu'il serait notre roi, qu'on établirait un royaume. Puis, alors, ils avaient de la peine. Ils parlaient des mauvaises nouvelles la journée. Au lieu de parler de la résurrection, ils ont parlé de son départ qui les ont empêchés de reconnaître, de savoir que Jésus était là. Et souvent, on s'entretient avec des mauvaises nouvelles. Quelle est notre conversation lorsqu'on se lève le matin? Quelle est notre conversation lorsqu'on écoutait peut-être des nouvelles, lu les journaux, parlait à un ami? « Ah, ça va mal dans le monde. Ah, c'est épouvantable. As-tu vu la condition des jeunes d'aujourd'hui? As-tu vu tous les meurtres qui se passent dans la ville de Montréal et ailleurs? » Et lorsqu'on entraîne nos pensées à penser comme ça, c'est sûr qu'on va oublier que Jésus est là malgré tout. On ne le reconnaîtra pas, on va reconnaître plus ce qui s'est passé de nos yeux que de reconnaître la présence de Jésus à travers notre quotidien. Alors, ils s'entretenaient sur des mauvaises nouvelles. Et si ce matin, vous êtes de ceux qui font ça et que vous aimez entendre des mauvaises nouvelles, je vous demande, stop. Jésus, tu ne le reconnaîtras pas, tu vas oublier qu'il te parle et tu ne seras même pas conscient de sa voix. Deuxièmement, ils ne l'ont pas reconnu parce que Jésus n'est pas venu remplir le mandat auquel eux s'attendaient qu'il remplisse. Pour eux, Jésus était comme un militaire qui allait libérer Israël de l'Empire romain. Et puis, lorsque Jésus est parti, ils étaient déçus parce qu'on pensait qu'il serait notre roi puis il jugerait les nations et tout ça. Mais ça ne s'est pas arrivé. Puis il est mort. Alors, ils ont perdu leur espoir, ils ont perdu leur raison de le suivre. Ils s'étaient sacrifiés pour quitter ce Jésus-là en espérant, en s'entendant à quelque chose de spectaculaire et de militaire. Mais non. Ils étaient tristes parce que Jésus n'est pas venu à eux de la façon qu'ils pensaient. Ils ont été tristes parce que Jésus n'a pas rempli le mandat qu'eux pensaient qu'il allait remplir. Et pourtant, dès les premiers jours de son appel, de son ministère, Jésus disait, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir les malades et tout ça. » Il n'avait jamais parlé de marche militaire, il n'avait jamais parlé qu'il allait venir assommer, foudroyer l'Empire romain. Il n'était pas venu pour ça. Il était venu simplement pour bénir ceux qui voulaient le recevoir et le bénir. Vous voyez, Jésus ne vient pas de façon militaire, il ne vient pas de façon empirique, il n'est pas venu pour éliminer la guerre, endiguer le mal et chasser les virus. Non. On s'attend qu'il va le faire. On croit qu'il va le faire. Mais des fois, excusez-vous décourager, là, mais ça ne marche pas comme ça. Hein? Le Jésus que nous connaissons, que je connais, est venu doux comme un agneau, humble dans l'humilité, pour toucher individuellement chaque individu qui veut ouvrir la porte de son cœur. Hein? Je connais des chrétiens qui ont fait des milliers de kilomètres simplement pour se faire imposer les mains par un prophète soi-disant connaissant. Pour revenir, non, ce n'est pas là-dedans que Jésus agit. Il agit dans ton cœur. Et voici, je frappe à la porte. Et si tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Simplement, c'est ça. Jésus est venu personnellement pour toi. Oh, on nous savons en tant que chrétien qu'un jour, il viendra pour les nations pour les juger. Mais cette heure-là n'est pas arrivée. Alors, ne précédez pas ce que Jésus a déclaré arriver un jour. Vivons notre vie en s'attendant que Jésus est là pour moi personnellement, pour toi personnellement, pour tout ce qui se passe dans ta vie. Oui, Jésus est là. Il a son seul mandat présentement. C'est simplement te bénir, te guérir, t'encourager être avec toi dans la vie de tous les jours. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Ça, c'est le Jésus que je sers. Également, mais Jésus n'est pas venu. Ils étaient tristes parce que Jésus n'est pas venu de la façon qu'ils l'imaginaient. Et il était tellement ordinaire, comme tout le monde. Hein? Aujourd'hui, on dit, hey, un pasteur, ça a l'air de même. C'est, autrefois, on disait qu'un pasteur qui n'avait pas de cravate, c'était pas un pasteur. Mais ça c'est lointain, ça. Mais Jésus n'est pas venu de façon à frapper le regard. La preuve, d'ailleurs, c'est que quand Judas Iscariote a voulu le livrer aux pharisiens, il a fallu qu'il l'embrasse pour dire aux pharisiens, mais c'est lui. Sans il ne le reconnaissait pas, il ne savait pas. Il était un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme qui flashait, ce n'est pas un homme qui disait « Me voici, Jésus-Christ de Nazareth! » Non, il était silencieux. Et d'ailleurs, lorsqu'il parlait à ses deux disciples, jamais il n'a parlé de qui il était. Il a raconté l'histoire de Jésus sans dire que c'était lui. Alors, parce que Jésus est comme ça. Il ne vient pas, la Bible nous dit qu'il n'est pas venu pour attirer les regards. Il n'est pas venu pour foudroyer les pécheurs pour l'instant. Il est venu simplement pour toi et moi. Et ça, c'est le véritable mandat. Mais lorsque tu ne le reconnais pas, lorsque tu penses que Jésus va changer la position de la terre, lorsque tu penses que les pays géographiques seront tous anéantis, quand tu penses comme ça, tu es déçu quand ça n'arrive pas. Alors, ne vous racontez pas des histoires avant le temps. Laissons l'avenir dans les mains du Seigneur et vivons notre vie de tous les jours pour sa gloire, simplement. OK? Alors, il n'est pas venu de la façon imaginée, mais il est venu de façon personnelle. Personnelle. Et c'est là-dessus surtout que je vais vous parler aujourd'hui. Ce Jésus personnel, qui est-il? Qu'a-t-il fait pour toi? Qu'a-t-il fait pour moi? J'aimerais vous parler du Jésus que moi je connais. Okay? Michael faisait allusion tantôt qu'un ancien en connaît plus que d'autres, souvent à cause de leur expérience de vie, la maturité. Ça me fait penser à une histoire. Tu sais, on a des histoires entraînées des fois que les jeunes ne comprennent peut-être pas autant. Souvent, je dis, nous, les aînés, nous avons beaucoup de réponses. Le problème, c'est que personne ne demande des questions. Oui? Nous demande des questions. Personne ne nous demande des questions. Mais, blague à part, ce Jésus dont je vais vous parler, c'est lui qui a fait de moi et de toi ce que nous sommes. Il m'a fait vivre des moments inoubliables. Il m'a fait vivre des moments dont je me souviendrai toute ma vie. C'est un Jésus qui a été traité injustement. Il y avait une allusion à ça tantôt par quelqu'un qui a parlé. L'injustice. Et Jésus, c'était pas la première fois qu'il était traité injustement ou laissé de côté. D'ailleurs, lorsqu'on l'a arrêté, après le jardin, les pharisiens qui l'ont arrêté, qui l'ont emmené à la cour, ils ont fait contraire à leur loi. Les pharisiens étaient rigides sur la loi, mais quand c'était eux, ils étaient un petit peu plus libérales. Par exemple, lorsque tu arrêtes quelqu'un, les pharisiens ne doivent jamais, jamais se rencontrer le soir, selon la loi. Ils devaient se rencontrer le jour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un meeting le soir, les pharisiens. Ensuite, ils devaient se rencontrer au temple pour juger la situation de quelqu'un. Qu'ont fait les pharisiens? Ils l'ont fait dans une maison privée. Oui. Une autre chose, c'est que il ne fait jamais faire de rencontre comme ça et de juger quelqu'un durant un festival. Or, on sait que lorsque Jésus était arrêté, c'était le week-end de la Pâque juive. Oui. Alors, partout, on voit qu'on a maltraité Jésus pour des fausses accusations et également en désobéissant à la propre loi. Alors, c'est sûr que le temps de Jésus est arrivé ou qu'il allait se manifester par son sacrifice sur la croix, mais le Jésus que je connais est un Jésus particulier. Alors, lorsqu'on lit l'histoire du chemin d'Emmaüs, il y a même un livre qui s'appelle « Chemin d'Emmaüs » que je n'ai jamais lu. Alors, j'aime pas baser mes messages sur des choses que j'ai lues, plutôt sur des choses que j'ai vécues. Alors, ça a l'air c'est un bon livre, mais c'est tout. Alors, maintenant, c'est lui qui a fait de moi, je disais, ce que je suis. Maintenant, quand je disais que le Seigneur a fait pour moi des choses éblouissantes, je me rappelle d'un moment donné où j'ai dû se faire connaître à moi. Après mon salut, après ma conversion, après mon baptême de l'Esprit, tout ça, là, on ne connaît jamais Jésus autant qu'on devrait. Je me rappelle, à un moment donné, je fus invité à Syracuse, dans l'État de New York. Et puis, comme traducteur en français, pour des prédicateurs qui étaient invités au congrès, qui rassemblaient seulement des hommes. Promise Keepers, c'était très populaire il y a quelques années. Ils remplissaient des stades de football. Okay? Alors, j'étais dans ce stade de football qui contenait 42 000 personnes, puis il y avait 42 000 hommes et garçons qui étaient là. Une chose... C'est émouvant seulement le voir. Puis moi, j'étais en haut, là, complètement dans les gradins, pour traduire en français le texte qui m'arrivait sur un écran, qui était le texte que le prédicateur disait, puis bien, bien, bien loin en bas. Okay? J'étais là dans mon... Je me sentais tout petit, dans mon petit cubicule, mon petit bureau, là, il y avait seulement une table, une chaise, un micro, un petit écran de téléviseur qui me transmettait les paroles que je devais traduire en simultané. Pas facile, pas facile du tout. Et là, la dernière prédication de la journée, une expérience inoubliable m'a bouleversé lorsque le pasteur a parlé de la croix et du sacrifice de Jésus pour chacun. Je ne sais pas, j'ai déjà raconté ça ici, mais je sais que quand je donnais cette partie de ma vie à quelque part, Normand Robitaille est venu me voir après. Et j'étais là ce jour-là. T'sais? Alors, si vous croyez que ce n'est pas vrai, allez lui demander, il va vous le confirmer. Enfin, oui, il y a un groupe de Québécois avait descendu à l'État de New York pour se joindre aux grandes festivités qu'il y avait là. Alors, comme je disais, le prédicateur, le dernier de la journée, donne un message émouvant sur Jésus-Christ. Je n'ai jamais, j'avais jamais entendu, jusqu'à ce jour-là, un message si graphique. Il n'y avait pas de PowerPoint dans le temps, là. Il n'y avait pas de vidéo pour confirmer. Seulement la voix devant 42 000 personnes. Je n'ai jamais entendu un message si graphique, si illustratif, si émouvant sur la croix et les souffrances de Jésus. Il me semblait entendre les clous pénétrer dans ses mains. Il me semblait ressentir la couronne d'épines qui se plaçait sur sa tête. C'était si puissant que je me suis mis à pleurer à chaudes larmes et je devais traduire. Alors, j'ai dû dire aux gens qui étaient là, à ceux qui avaient des écouteurs, parce qu'ils ne comprenaient pas l'anglais, « Excusez-moi, je ne peux plus continuer pour l'instant. J'ai pleuré à chaudes larmes et j'ai envie de redonner ma vie à Jésus. » C'est ça que j'ai dit. C'est fort, OK? Et pourtant, je connaissais ce Jésus-là. Il n'était pas un étranger. Je savais qu'il avait payé le prix pour moi. Mais un bon rappel, ça a fait énormément de bien. Alléluia. Et au moment de l'appel, là, j'ai repris mes sens, juste pour quelques instants, parce que lorsque le prédicateur fait l'appel, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont descendues des gradins de partout. Imaginez 42 000 personnes, puis la moitié des sièges se vident. Pour venir prier en avant, on a dû remplir les allées, tout ça, parce que ces gens-là voulaient recevoir Jésus ou renouveler leur alliance avec Jésus. C'était émouvant et pour la deuxième fois, je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était si fort, c'était si grand. Et vous savez, cette présence de Dieu que je ressens de temps à autre, ça m'est arrivé à plusieurs reprises depuis ce temps-là. Je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais sur la route de l'autoroute 20, je m'en allais à Québec, et à un moment donné, c'est venu si fort en moi. J'ai commencé à pleurer et je conduisais, puis j'étais seul dans l'auto. J'ai dû stationner sur le bord de l'autoroute pour que ça passe, parce que je devenais dangereux pour les autres. Hein? Et le Seigneur m'a parlé, m'a touché, il m'a rappelé son amour et sa fidélité. Sa fidélité en toutes choses. D'ailleurs, mon adjectif préféré pour décrire Jésus, c'est fidèle. Sa fidélité, qui dure à deux jours. Ta fidélité est grande. En tout cas, bon, je ne suis pas un chanteur, mais ça me rappelle des souvenirs formidables. Alors, et c'est important de savoir que Jésus, se révèle fort pour toi, pour que tu saches vraiment qu'il est réel. Si tu n'avais jamais fait d'expérience réelle avec Jésus, puis vous venez à l'église parce que vos amis sont là, puis vous voulez avoir du monde, parce qu'il va avoir du café, là, il faut aller plus loin que ça. Il faut demander que le Seigneur Jésus vienne émouvoir ton cœur, tes pensées. Soyez renouvelés dans vos pensées, votre intelligence, dit la Bible, parce que nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Nos voix ne sont pas ses voix. Et nous devons absolument demander au Seigneur une touche puissante de sa part. Maintenant, un tel moment là, ne s'oublie pas. Il m'a communiqué à nouveau sa paix, Marie, je l'avais, une plus forte dose de son amour pour ce Jésus qui a tant souffert pour moi. Les mots me manquent pour le décrire de la même manière que le pasteur que j'ai entendu, dont j'oublie le nom. Mais je me suis identifié à ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Lorsqu'il dit, à partir du verset 3, 4 et 5, « Je ne veux déclarer parmi vous aucune autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et à un moment donné, je me suis mis à arrêter. Il me disait, « Mais Sam, il n'est pas seulement crucifié, mais il est aussi ressuscité. » Mais ce n'est pas ça que Paul a dit. « Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas le tombeau vide qui nous a sauvés, c'est la croix. Notre vie personnelle avec Jésus n'a pas commencé à l'histoire de la résurrection, elle a commencé à l'histoire de sa crucifixion. Le prix que nous avons payé, que Jésus a payé et que nous avons dû reconnaître, c'est le fait que Jésus a été crucifié. Oui, je sais qu'il y a une suite à l'histoire. Nous le savons en tant que chrétiens. Mais avant que nous ressuscitions, nous avons dû mourir avec le Christ. Nous avons dû mourir avec lui. Nous avons dû accepter ce qu'il voulait nous offrir en tant que femmes et filles et hommes et garçons. La crucifixion de Jésus est le message central de la parole de Dieu. La crucifixion, c'est pour tout le monde. Mais la résurrection, c'est surtout pour ceux qui le connaissent. Oui? Je ne veux pas vous induire dans une affaire trop compliquée, là, mais notre salut, c'est à la croix que je l'ai vécu, mon salut. Le tombeau vide, c'est le bonus qui vient après. Oui? Ce n'est pas devant le tombeau vide que j'ai été sauvé. C'est par la crucifixion de Jésus. Alléluia, il n'y a rien de mieux. Il faut connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ressuscité, on en parlera plus tard. Mais Jésus-Christ crucifié est le message central de la parole de Dieu. À bien y penser, ce n'est pas la résurrection et le tombeau vide qui nous a pardonné, qui nous a sauvés, qui a lavé nos péchés. C'est plutôt la croix qui a fait tout cela pour nous. C'est à la croix que nous avons consacré notre vie au Seigneur. C'est à la croix que nous sommes devenus ses enfants. C'est à la croix qu'il a payé le prix pour toi et moi. C'est à la croix que comme disait un vieux hymne, « Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour elle. Et par elle, à la vie. » Alléluia. Et par elle, je peux voir une nouvelle gloire dans ma vie. Merci, Seigneur. Alors, quand j'étais 13 jours à l'hôpital, j'étais plutôt nouveau, si je parlais pour moi, si je m'arrête à ça. C'était nouveau parce que je n'avais jamais été à l'hôpital de ma vie, même pas une journée. Seulement pour voir les autres qui étaient malades, mais jamais moi. J'étais rendu à 75 ans à peu près là, à ce moment-là. Et puis, quand l'ambulance est venue chez moi, je pensais dans un sens que je reviendrais le même jour, juste un petit check-up rapide, mais je suis resté là 13 jours, sans aucun symptôme. C'est que j'avais perdu, je vous l'explique, parce que vous m'avez vu peut-être quand je vous parlais, puis j'étais dans mon lit pour la consécration. Et puis, je souffrais d'une perte d'énergie. J'étais rendu à 45% d'énergie dans mon corps. Pour vous qui connaissez ça, là, c'est un moment dangereux. Okay? Et on a dû prendre 13 jours pour me ramener à mon état normal. Dieu était bon parce que je n'ai jamais eu de fièvre, jamais de maux de tête. Je ne toussais pas. Je veux dire, j'étais normal. Merci, Michael.
Ouais. Bon.
Ce fut une épreuve dans un sens de découragement, mais pas toujours, certaines journées. Malgré que je me sentais fort dans le Seigneur, puis j'étais encore. Il y avait des choses, j'avais des problèmes à comprendre, à saisir. Et puis, aujourd'hui, il me semble qu'après cette expérience-là, j'ai une parole personnelle pour quelques-uns parmi vous. Pour l'avoir vécu moi-même, certaines épreuves que tu passes sont des épreuves de ta foi. Hein, l'apôtre Jacques parle de l'épreuve de ta foi. C'est quoi ça? C'est pas que tu es malade, c'est pas que ça te tente plus de faire ci ou ça, mais c'est que c'est ta foi qui est affectée. Pas ton foi, mais ta foi qui est affectée. Et dans ces moments-là, et c'est ça qui m'est arrivé quand j'étais à l'hôpital, ta foi et tes convictions sont attaquées. Jésus, je suis ton serviteur depuis tant d'années. Je n'ai prêché que toi. Je crois que tu peux guérir. Mais me voici sur ce lit, étant quasiment inutile, quasiment rien. C'est un moment où que Dieu te semble absent. À plusieurs moments, c'est comme si le ciel est derrière et que Dieu ne répond pas. Tu te mets à douter de son amour. Tu te mets à douter de sa fidélité. Tu ne vois pas les promesses de Dieu s'accomplir pour toi comme auparavant. Bien, des fois, je demandais quelque chose, ça arrivait tout de suite. Mais là, oups, ça ne fonctionnait pas. Des chrétiens, quasiment tout la planète m'écrivaient. Je recevais des douzaines et des douzaines et des douzaines de messages par jour, par Facebook, sur mon téléphone, par téléphone et tout ça. On priait pour moi. Je disais « Amen » à la fin des prières et je me réjouissais du fait que pour quelques minutes, je me sentais élevé dans la présence du Seigneur. Ça, c'était pendant les premiers jours, parce que la situation a changé par la suite. Tu t'interroges sur les intentions de Dieu pour toi. Tu t'interroges sur la continuation de ta vie, sur ton ministère. Et là, tu cries comme certains psalmistes l'ont fait « Où es-tu, mon Seigneur? Où es-tu, mon Dieu? Est-ce que tu m'entends, Seigneur? » Mais tes questionnements demeurent sans réponse. Et c'est difficile à vivre avec ça. Je pensais que je connaissais la Bible par cœur. Hein? Puis des gens m'écrivaient, « Souviens-toi des promesses de Dieu. » Mais je me souvenais de rien. Étrange quand même, je me rappelais de rien. J'avais eu de la misère à répéter Jean 3,16. J'essayais de chanter un chant. Il n'y a aucun chant qui m'amenait à l'esprit. J'étais comme vidé de tout. Puis là, je me posais des questions quand je revenais à des meilleurs moments. Comment ça se fait que je me souviens de rien? J'ai lu la Bible des douzaines de fois, d'un bout à l'autre, mais je me souviens de rien. Si jamais ça vous arrive, frère, ça, il y a des jours là, que tu as eu beau croire, mais rien ne se passe. Ne sois pas découragé. Le meilleur s'en vient. Je le sais. Le meilleur s'en vient. Parce que dans toutes ces situations-là, là, Dieu ne disqualifie pas ses enfants. Il ne disqualifie pas ses ouvriers. Il comprend nos doutes. Puis il sait que parfois, nos paroles vont dépasser nos pensées. Absolument. Et je me souviens de certains soirs, là, où que l'épreuve de ma foi a été. Ça m'est arrivé au moins une dizaine de fois dans ma vie où que ma foi a été, je ne dirais pas affaiblie, mais attaquée par l'ennemi, par les circonstances. Je me souviens de certains soirs avoir expérimenté une épreuve de foi au sujet de mon appel. Je partais de la maison, alors j'allais à l'église, j'étais le pasteur. Hein? En me rendant à l'église où je devais apporter l'étude du mercredi soir, mon auto ne démarre pas. Alors, je décide d'y aller en bicyclette. Mais la pluie, mais c'est mis à ton. Il faisait soleil quand je suis petit, il pleuvait fort. Quand je m'en allais vers l'église, elle s'est mise à tomber en descendant de petites côtes sur une des rues à Drummondville. Je tombe par terre. Tout mouillé. Quelques trous dans les... Je sais que c'est populaire aujourd'hui, les jeans avec des trous, là. Mais là, je n'ai eu ce jour-là sans sans courir après. Je tombe par terre, j'arrive à l'église avec quelques ecchymoses et les pantalons mouillés, tout ça là. Et pour la seule et unique fois de mon ministère, combien de personnes sont venues à l'église? Zéro. Zéro. Là, je me suis posé des questions. Ça se peut-tu, Seigneur, normalement, partout que je vais, même à mon église, tu sais, on était au moins quasiment, dans ce temps-là, 75 à 100. Personne vient le seul soir. Et là, ça a juste redoublé mon épreuve de foi. Jusqu'à quand que le Seigneur manifeste encore dans les jours à suivre. Et puis, j'ai retrouvé la foi en Jésus. Alors, le pire qui peut vous arriver, frères et sœurs, c'est l'épreuve de votre foi. Mais le mieux qui peut vous arriver, c'est quand le Seigneur, par son esprit, vous en sort. Et là, vous êtes encore davantage convaincu que malgré tout, comme dit mon livre, malgré tout, tout est possible. Malgré tout, Dieu est toujours à l'œuvre. Il ne vient pas toujours te dire « Allô, allô, je suis Jésus ». Non. Il n'est pas venu avec des tonnerres pour dire « C'est moi, là. Me reconnais-tu? Je suis là. Je ne joue pas à la cachette. » Non. Jésus est, la plupart des fois, bien tranquille. Mais une chance qu'il est bien tranquille, parce que là, si on lui désobéit, là, il ne faudra pas qu'il soit tranquille, là. On aura de la misère à vivre. Hein? Mais il passe par-dessus, comme si rien n'était. Il te reconnaît. Mes brebis entendent ma voix, mais elles me suivent. Marie, que des fois, les disciples n'ont pas entendu la voix, là, mais ils pensaient que Jésus était disparu, mais non. Il ne disparaît jamais, il ne disparaîtra jamais, parce qu'il sera avec toi jusqu'au bout. Alors, tu es en attente d'une réponse. La réponse ne vient pas. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et le Seigneur voudrait dire, mes yeux sont sur toi. Tu as beaucoup de valeur à mes yeux. Je suis mort pour toi, afin que tu me connaisses, que tu me reconnaisses. La victoire s'en vient, attends-la, réjouis-toi à l'avance, dit le Seigneur. Parce que tu te réjouiras à nouveau dans ma présence. N'abandonne pas mon peuple. N'abandonne pas tes amis qui me confessent. Ne dis pas, je prendrai congé de mon Seigneur. Ben, je suis là avec toi, jour après jour. Et jamais tu ne pourras être arraché de ma présence. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus est bon, merveilleux. Alors, on va retourner à Luc 24. Ben, je veux compléter de la façon que j'ai été inspiré à compléter. Alors, les deux disciples se promènent sur le chemin. Et arrivés à la maison, ils constatent que le soleil commence à se coucher, commence à faire noir. Là, au lieu de se saluer, le personnage qu'ils trouvaient bien gentil, mais qu'ils ne reconnaissaient pas, ils décident de faire de l'hospitalité, dire « Viens donc avec nous à manger une croûte au moins, parce qu'il est tard, puis reste avec nous. » Il y a un vieux chant cantique qu'on chantait qui s'appelait « Reste avec moi ». C'était inspiré de ce chapitre-là. Et puis, alors, Jésus dit « OK ». Il n'avait pas encore dit qui il était. Il n'avait pas encore déclaré sa présence. Mais il l'invite comme un ami. Il l'invite. Puis là, ils commencent à manger ensemble. Et au moment de casser la croûte avec le pain, il se met à prier. Là, ça marquait. Et là, ils reconnurent qui il était. Parce que Jésus venait de faire un acte qu'ils avaient su qu'auparavant, c'est seulement lui qui avait fait cet acte-là de leur vécu. Ils ont reconnu le Jésus qui avait cassé la croûte avec ses disciples dans la chambre haute auparavant. Ils ont reconnu le Jésus qui, lui, voulait qui voulait se manifester à eux autres. Avant ça, il n'a jamais fait sa propre publicité. Il n'a pas dit, vous savez, bon, je suis Jésus, voyons donc les boys, là, ça fait longtemps qu'on se connaît. Non, il ne s'est jamais annoncé. Et là, s'ils l'ont vu, casser la croûte, prendre la communion. Là, ils ont reconnu qui il était. Mais il était disparu, sans avoir déclaré qu'il était Jésus. Et là, leur cœur dit, on a rendu y penser. Lorsqu'il nous parlait, notre cœur brûlait. Il y avait une raison pour ça. Lorsqu'il nous parlait, il y avait quelque chose qui brûlait en nous. Et c'était Jésus. Hein? Il y a des fois, tu manques ta foi, tu manques de foi, tu manques de persévérance. Mais plus tard, quand tu t'en sors, tu te dis, j'aurais dû savoir que Jésus était là. J'aurais dû me rendre compte que Jésus m'a soutenu. Et combien souvent, hein, on a rencontré des personnes qui venaient de donner leur cœur à Jésus, puis avaient été interpellés par l'Esprit plusieurs fois auparavant, mais ils n'avaient pas reconnu qui il était. Et puis tard, ils ont dit, « Oh, là, c'est arrivé dans ma vie telle situation, Jésus m'en a sorti sans que je sache que c'était lui. J'aurais dû y penser. » Alors, c'est comme ça la vie de tous les jours, frères et sœurs. Jésus n'a pas besoin de donner son nom tous les jours où tu l'as pris. Il n'a pas besoin, il voit pas le besoin de se manifester verbalement, publiquement à chaque fois, mais on ressent sa présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'importe la sorte de journée que tu vis, n'importe la situation dans laquelle tu es, il est avec toi même quand tu ne le reconnais pas. Il est là. Je vous encourage ce matin à reconnaître sa présence, à demander au Seigneur une touche particulière sur ta vie, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre aujourd'hui. Hein? Vous aurez des baptêmes d'eau qui ont été annoncés très prochainement. Savez-vous, dans toutes les églises où je suis allé depuis un mois ou depuis deux mois, là, toutes les églises ont annoncé des baptêmes d'eau. Hein? Parce qu'il y a des âmes qui se donnent au Seigneur, qui ont réalisé que durant la pandémie, ils ont été protégés par un être qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont reconnu que Jésus a été avec eux à travers toute cette situation-là. Et malgré toutes les choses qui sont arrivées durant la pandémie, pas toujours bonnes, plusieurs ont été protégés par la main souveraine de Dieu et l'ont reconnu plus tard. Jésus était là avec moi. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais comme un homme neuf. J'avais retrouvé toute ma force dès le deuxième jour de ma sortie. Il n'y a rien vraiment qui a changé pour moi dans le sens santé depuis ce temps-là. Je suis en pleine forme. Je m'ennuyais de tout le monde. Il y en a, j'ai hâte de revoir comme vous autres, parce que nous avons été empêchés, à travers tout ce temps-là, de se voir, de se côtoyer. Mais nous voici aujourd'hui avec ce Jésus qui frappe à notre porte. Et qui dit, voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu m'ouvres à la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Et c'est ça que les deux disciples qui s'en allaient vers Emmaüs ont fait. Ils ont invité Jésus à souper. Ils ont invité Jésus, sans s'en rendre compte que c'était lui, à venir passer la soirée chez eux. Si tu ne connais pas Jésus comme tu devrais ce matin, tu devrais sentir sa présence, laisse-moi vous donner deux, trois conseils avant de terminer. Premièrement, invitez-le. Hein? Invitez Jésus dans votre vie, dans votre cœur, dans votre foyer. Il va souper avec vous tous les soirs. Parce que tu as laissé ouvert la porte à son esprit et à sa puissance. Merci Seigneur, tu es bon. Et amen. Également, ce Jésus qui est parmi toi, tout ce qu'il veut, c'est ton accueil. Et une fois qu'il sera chez toi, dans ta vie, dans ta maison, ne le laisse pas partir. Défendu. Hein? Gardez sa présence, gardez son amour. Maintenez-vous dans sa grâce. Dites au Seigneur, je m'accroche à toi pour le reste de ma vie. Prenez une décision ferme et convaincue afin que Jésus devienne pas seulement ton ami, pas seulement un bon gars qui m'aide quand je suis mal pris, mais afin qu'il devienne un confident, un conseiller et quelqu'un qui en veut le mieux pour toi. Alors, ne le laissez pas partir, invitez-le, ne le laissez pas partir et demeurez en sa présence et appréciez sa présence jour après jour. Alors, je prie ce matin que la question que les disciples ont dit notre cœur ne brûlait-il pas? Ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Quand la dernière fois est-ce que la parole de Dieu t'a brûlé ton cœur? Quand la dernière fois est-ce que la présence de Dieu t'a fait pleurer ou t'a réjouir en sa présence? Cesse de demeurer indifférent. Ressens la présence de Dieu qui va faire un changement émouvant dans ta vie, comme c'est arrivé à maintes reprises pour moi. Par la grâce de Dieu, je te souhaite le meilleur. La grâce, la bénédiction et les bontés de l'Éternel qui ne s'épuisent pas, mais qui se renouvellent à chaque matin. C'est mon verset préféré. Hein? Parce qu'on pense que les bénédictions d'aujourd'hui, c'est assez, Seigneur, là? N'est-ce pas assez? Non, il y en a d'autres demain. Il y en a d'autres après-demain. Pourquoi des fois, tu n'as pas ta réponse tout de suite? Parce qu'il y a une réponse demain. Il y a une réponse après. La réponse en vient. Des fois, elle vient tout de suite, des fois, elle vient plus tard, mais sois assuré, il est présent dans ta vie, puis il veut être présent dans ta vie si tu ne le connais pas. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse passer un court temps de prière. Ensuite, on va prendre la communion. On va faire comme les disciples dont je viens vous parler. Alors, ne sauvez-vous pas. Demeurez jusqu'à la fin. Il y a des choses merveilleuses qui s'en viennent. J'aimerais inviter tous ceux qui le veulent ou qui n'ont besoin de s'approcher dans quelques instants pour recevoir la prière. Ça peut être court, ça peut être imposition des mains ou pas, mais juste s'approcher en avant pour recevoir davantage du Seigneur. Guérison de l'âme.